Chers frères et sœurs, à mesure que nous approchons de la fête de la Pâque, la liturgie nous invite à avoir une relation toujours plus personnelle avec le Seigneur. Reprenons, si vous le voulez bien, les enseignements des lectures que nous avons entendues aujourd'hui. Nous avons tout d'abord entendu cette prophétie d'Isaïe. Le prophète s'adresse à une communauté qui est en exil, qui est loin de sa terre, à Babylone, 6 siècles avant Jésus-Christ. Et le prophète promet un nouvel exode. Donc de la même façon que le Seigneur avait libéré son peuple en le faisant traverser la mer Rouge, de la même façon, enfin d'une façon encore plus extraordinaire, le Seigneur va faire revenir son peuple de l'exil. Et ce peuple est appelé à redire la louange de Dieu, c'est sa vocation. Le Seigneur va faire une œuvre plus grande encore. Et cette œuvre plus grande, donc, c'est ouvrir un chemin dans la steppe. Non, je ne sais pas si vous avez fait attention, même les chacals et les autruches vont être surprises parce qu'il y aura cette route dans le désert et il y aura de l'eau en abondance. Autrement dit, le Seigneur promet une nouvelle libération à son peuple, encore plus extraordinaire que ce qui s'est passé de l'Égypte, en sortie d'Égypte. Cette lecture, cette manière de voir, c'est ce qu'on appelle le mémorial. Le peuple est appelé à faire mémorial, de faire mémoire des actions du Seigneur dans le passé parce qu'il intervient aujourd'hui pour voir Dieu qui agit aujourd'hui. C'est bien ce que nous célébrons chaque Eucharistie. Si nous venons à la messe, nous faisons mémoire de ce que Jésus a réalisé sur la croix, mais c'est pour vivre des grâces qu'il nous a acquises aujourd'hui, pour rendre les grâces présentes aujourd'hui, des grâces plus grandes encore. Ensuite, nous avons chanté donc le psaume 125, un très beau psaume qui fait suite justement à cette prophétie, c'est comme la réalisation. La première lecture promettait le retour d'exil. Le psaume chante ce retour. Quand le Seigneur ramenait nos captifs, nous étions comme en rêve. Alors, j'aime beaucoup ce psaume parce que quand il arrive quelque chose d'inattendu, on dirait que c'est un rêve. Alors, ça prend cette image du rêve. Et puis finalement, le psaume dit « Il s'en va en pleurant, il jette la semence ». Il s'en vient en chantant, il rapporte les gerbes. C'est comme un peu un enseignement de ce qu'a été l'exil et la libération. Autrement dit, nous avons semé dans les larmes de l'exil et nous sommes appelés à récolter dans la joie du retour à la terre. Après l'épreuve, la joie de la rédemption, du salut, est bien plus grande encore que l'épreuve que nous avons souffert. C'est un petit peu dans le même sens que nous pouvons comprendre la deuxième lecture, la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Paul fait mémoire des grâces qui lui ont été accordées au long de sa vie et il regarde un petit peu, fait un tour en arrière. Il dit, le plus important c'est de connaître le Christ, de connaître Jésus-Christ. Tout le reste, ça n'est rien. Alors juste avant de cette lecture, le passage qui est avant, donc il dit, moi j'étais un pharisien, fils de pharisien, etc. Enfin, on connaît bien ce refrain-là. J'étais extrêmement zélé. Et qui d'entre nous pourrait se vanter d'être zélé pour la loi, enfin, comme lui l'a été? Et il dit, tout ça, c'est rien. Ça n'est rien à côté de cette grâce de connaître Jésus. C'est un bien largement, infiniment supérieur. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'appartient pas au passé, il ne fait pas mémoire, je suis tombé sur la route de Damas, j'ai rencontré le Christ, je suis devenu aveugle, j'ai été baptisé, etc. Bon, ça s'est passé il y a 30 ans, 20 ans, etc. Non, c'est quelque chose qui est effectivement arrivé dans le passé, mais qui l'appelle à de grâces nouvelles et qui le tend vers l'avenir. Il prend cette image de la course dans le stade. Il faut essayer d'imaginer les Jeux Olympiques à l'époque, etc. Quand on court, ce qui importe, ce n'est pas ce qui est derrière, c'est ce qui est devant, c'est de gagner le prix. C'est d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et notre vie chrétienne, c'est la même chose. Bon, certes, nous avons eu des grâces dans le passé, mais on ne va pas se retourner tout le temps, sinon on va perdre la course. Donc il faut être tendu vers l'avant. Et c'est cette très belle image que saint Paul nous donne. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. C'est un petit peu donc le même message que notre première lecture. Le Seigneur m'a béni dans le passé, mais je sais que c'est rien par rapport à la gloire qui m'attend à venir. aussi pour l'amour de lui, pour mieux le connaître, je suis prêt à passer toutes les épreuves parce que je sais que je le retrouverai dans la gloire. Je suis tout tendu vers lui. Et finalement, nous avons entendu cet évangile. Alors l'évangile de Saint Jean est toujours un petit peu compliqué. On a l'impression que c'est toujours un procès. Jésus est toujours en procès. Bon, c'est un peu le style littéraire de Saint Jean. Donc il y a des plaidoiries, on appelle des témoins, il y a des signes, des preuves, etc. Et là encore, donc c'est un peu une scène de tribunal, si on veut, qui est donnée, qui est comme un présage de la Pâque. Sauf qu'ici, c'est inversé, c'est Jésus qui apparaît comme le juge. Donc Jésus, d'abord, enseigne dans le temple. Il est assis, comme le professeur. Et puis ensuite, on amène donc cette femme qu'on veut lapider parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc il faut imaginer la scène, donc Jésus toujours assis, puisqu'il nous a dit qu'il marque des choses sur le sol. Alors tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'il a bien pu écrire? Donc je vous laisse imaginer. Donc imaginez la scène, donc les pharisiens tout autour, les gens qui l'accusent, cette femme au milieu, une situation un peu tragique. Et la question que l'on pose à Jésus, faut-il lapider cette femme? Alors il nous est précisé que c'est pour lui tendre un piège. Alors, juste une précision, pour la loi de Moïse, elle prévoyait de lapider les deux, en fait. C'était l'homme et la femme, c'était pas juste la femme. Mais là, il y avait que la femme, c'est pas de chance. Alors, c'est un piège parce que s'il répond oui, ben, comme Jésus dit tout le temps, ben, il faut faire miséricorde, etc. Bon, ben, tout tombe, hein. Et puis on lapide cette femme, et bon, sa réputation de 12 et 1, etc., bon, ça tombe un petit peu. Et s'il dit non, alors là, on aura de quoi l'accuser, puisque bon, ben, il dit qu'il est contre la loi de Moïse. Et ce qui est très beau dans cet évangile, comme souvent, quand il y a des controverses comme cela, Jésus finalement renvoie chacun à sa conscience. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Alors évidemment, tout le monde s'en va. L'évangile précise, en commençant par les plus vieux, parce que plus on est vieux, plus on a conscience de ses péchés. Et finalement, il ne reste que le juge, Jésus seul, et il donne le jugement. Est-ce que quelqu'un t'a condamné? Personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et évidemment, l'invitation, désormais, ne pêche plus. Ce qui est très beau, ce que nous pouvons retenir pour ce dimanche, c'est que Jésus, finalement, nous renvoie à notre propre cœur. Il y a toujours un pharisien qui sommeille en nous et qui veut résoudre les problèmes de manière globale, qui veut les grands ensembles et des choses, des lois universelles qui marchent à tous les coups. Il y a toujours quelqu'un en nous qui se laisse ébranler par l'actualité. On peut penser à l'évangile d'il y a 2 semaines, donc on rapporte à Jésus des événements, il y a une catastrophe à Siloé, il y a une catastrophe, il y a un meurtre, etc. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il renvoie, toi, suis-moi. Convertissez-vous. C'est la seule chose que Jésus nous dit. Mais finalement, il nous invite à rentrer dans une relation personnelle avec lui. Toutes ces lectures nous invitent chacun à faire mémoire de ce que Dieu a fait dans ma vie et à le suivre, et spécialement donc de le suivre alors que nous nous préparons à vivre la Semaine Sainte. Donc c'est notre effort principal de carême, c'est de rentrer dans une relation personnelle avec Jésus. C'est une invitation à faire mémoire des grâces reçues. Nous avons déjà rencontré le Seigneur puisque nous sommes ici ce matin. Nous avons expérimenté d'une manière ou d'une autre qui il est. Mais le Seigneur veut nous donner davantage, beaucoup plus. Il veut se faire connaître à nous. Il interpelle notre cœur. Alors, de manière spéciale, aujourd'hui, Kathleen, qui va faire une étape en vue de son baptême, elle a déjà fait l'expérience du Seigneur. Moi, en discutant avec elle, j'étais très interpellé justement par le fait qu'elle a rencontré le Seigneur dans sa vie, alors que bon, sa famille n'est pas pratiquante spécialement. Et elle a connu Dieu, elle a eu le désir de recevoir le baptême. Donc le Seigneur veut te donner encore plus. Parmi nous, donc, il y en a beaucoup de personnes qui sont venues pour le week-end famille, et puis il y a encore d'autres familles qui se sont adjointes pour cette messe de dimanche. Là aussi, c'est une invitation ce week-end. Je vous invite à faire mémoire des grâces que vous avez reçues quand vous avez rencontré votre époux, votre épouse, les grâces de votre mariage. Et soyez bien conscients que le Seigneur veut vous donner encore plus. Et il vous dit en même temps, convertissez-vous. Ne regardez pas vers le passé, dit Isaïe, enfin plutôt, appuyez-vous sur le passé pour vous préparer aux grâces présentes et aux grâces à venir. Tous nous sommes appelés à vivre une grâce de libération à l'occasion de la célébration de la Pâque. Préparons-nous à le recevoir, désirons recevoir ces grâces. Soyons tout tendus vers le Christ. Amen.